L'histoire nous est à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
Notre témoin de ce vendredi, Saul Friedlander, historien du nazisme et de la Shoah.
À Nuremberg, aujourd'hui, la justice passe. L'accord de pour 11 coupables, la prison pour 7 autres, la grâce pour 3.
À la date anniversaire de la fin du procès de Nuremberg, peut-on dire que la justice est passée, comme on le proclamait à son de trompe à l'époque? Les interrogations sur l'histoire du nazisme et sur l'histoire de la Shoah, qui en tant que telle n'était pas l'objet de Nuremberg, sont si vertigineuses. Jean-François Lyotard avait cette formule: le tremblement de terre a brisé jusqu'aux instruments de mesure dont nous disposions. Pour un historien comme Saul Friedlander, la difficulté a été aussi d'ajuster la distance à chaque étape de son travail. Son enfance, la vie de sa famille, celle de son peuple ont été traversées par la catastrophe. Comment donc trouver les mots qui, sans rien renier de cette expérience, peuvent composer une histoire, avec le risque qu'à tout instant, un incident survienne alors qu'on a cru avoir organisé le passé sur le papier. Cet incident fait remonter une mémoire profonde. De même que s'achève l'ère des témoins des camps, s'achève la grande génération des historiens de la seconde moitié du XXe siècle à laquelle Friedlander a appartenu avec passion. Resteront de son travail plusieurs grands livres que nous évoquerons trop rapidement ici, et aussi une leçon. Friedlander a en effet enseigné dans plusieurs pays à la fois, retrouvé des documents rédigés dans plusieurs langues. Il s'est tenu aux côtés de juifs d'origine diverse. Il a considéré les églises, catholiques comme protestantes. Il a observé à la loupe tel individu et tenté aussi des vues panoramiques. La leçon, c'est que l'histoire du nazisme et de la Shoah doit être une histoire intégrée.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour, Saul Friedlander.
Bonjour.
Vous publiez au Seuil, l'éditeur avec lequel vous travaillez depuis plus de 40 ans.
64.
Dans la plus grande fidélité, un volume d'entretien avec Stéphane Bou et puis un volume de mémoire, un nouveau volume de mémoire traduit par Jacques Dallarin. Pavel, Paul, Saül.
Paul-Henri, pendant la guerre, Paul-Henri-Marie, Shaul, Saül, Saul.
Et Pavel, c'était pendant votre enfance Prague. À Prague.
Voilà.
Quand vient le souvenir? C'était la première mouture de vos souvenirs, de vos mémoires, il y a une quarantaine d'années. Le souvenir peut vous sauter à la gorge quand vous travaillez.
Oui, bien sûr, à l'époque, je m'étais concentré, ça se comprend sans doute, sur l'enfance, et puis sur l'enfance cachée, mon catholicisme, si vous voulez. Et puis, je me suis arrêté. D'abord, de toute manière, je me suis arrêté en 77, au moment où j'allais faire paraître le livre. Et depuis, je ne pensais pas vraiment continuer le récit jusqu'à ce que j'ai compris que ce début avait laissé une marque dont on ne se débarrassait pas. Et alors, j'ai essayé de raconter, en fait, et c'est le fil de l'ensemble du récit, comment cette marque a influé sur toute une vie.
Où mène le souvenir? C'est un très beau titre parce que les souvenirs sont riches de futur. Vous n'avez pas été tout de suite un historien du nazisme. Vous avez exercé beaucoup de métiers dans vos 20 ans et même au début de vos 30 ans. Je voulais juste vous faire raconter une histoire. Vous êtes à Genève et vos parents ont tenté de passer de la France à la Suisse, par Saint-Gingolph, c'est donc tout près de Genève. Ils ont échoué, les Français les ont pris, ils ont fini à Auschwitz. Vous n'avez pas l'idée, quand vous êtes à Genève, installé pour la première fois, d'aller faire le pèlerinage?
Non. Et pendant 17 ans. C'est curieux, parce qu'en voiture, ça vous prend une trentaine de minutes. Et c'est justement ça, le souvenir, la mémoire, revient très lentement. Parce qu'il y a des résistances extraordinaires. Enfin, dans ce cas-ci, il se peut que le traumatisme, si on peut l'appeler ainsi, vraiment servent de repoussoir et que tout ça prenne énormément de temps. Je travaillais sur le nazisme depuis le livre sur P12, dont on va sûrement parler, donc depuis les années 60, 63, 64, mais je n'allais pas au lieu de ma propre expérience la plus dure. J'avais peur d'y aller sans le savoir.
Ça ne veut pas dire indifférence, c'était
non,
distance.
Ça veut dire blocage.
Le grand travail qui fait de vous un personnage, encore plus qu'un historien, P12 et le nazisme, est sous-titré « Documents ». Vous avez trouvé des dossiers aux archives en Allemagne. Vous avez renoncé à chercher à l'époque les dossiers au Vatican. Le temps vous aurait manqué.
On ne me l'a pas permis.
Je veux dire que le temps de la négociation aurait été trop long. Un grand historien catholique conservateur français qui s'appelle Fabrice Boutillon a ce jugement terrible sur P12. Il éprouvait un tel désir si limpide et si vrai d'être pape que, en effet, il fut pape et le pape qu'il fut.
C'est une formule extraordinaire. C'est bien ça. Alors on se demande jusqu'à ce jour pourquoi ce pape, donc élu quelques mois avant le début de la guerre en Europe, resté pape pendant toute la guerre et au-delà, la guerre froide, n'a pas réagi à différents événements et surtout à l'extermination des Juifs d'Europe. À leur déportation aux Juifs de Rome, d'Italie, sous ses propres fenêtres, comme ça a été dit. Je crois qu'il y a pas mal d'explications. Bien sûr, ça, tout dépend du camp auquel on appartient, mais j'en viens à l'explication qui peut-être est la principale, c'est que P12... qui avait déjà fait montre de sa compréhension des positions du fascisme italien et en est venu à l'idée d'apaiser le nazisme, le régime allemand, et a été sur ce point en total désaccord avec Pie XI, qui à la fin de sa vie voulait publier une encyclique contre l'antisémitisme racial des nazis. Et P12, donc à l'époque encore secrétaire d'État, avant d'être élu pape, a simplement subtilisé l'encyclique que l'on a retrouvée que des dizaines d'années plus tard.
Boutillon, qui la publie dans un volume chez Dialogue, dit aussi qu'on pourrait appliquer à P12 la formule de Yankelevitch. Vous savez, le « je ne sais quoi » et le « presque rien ».
Oui.
P12, c'est « je ne sais rien et je suis presque quoi ». C-O-I.
Il a vraiment des formules extraordinaires.
Aux archives de Westphalie, que Léon Poliakov contribue à vous ouvrir, vous trouvez ensuite matière à écrire une biographie d'un SS très particulier qui est aussi un chrétien fervent. Lui, ce n'est pas un catholique, c'est un protestant. Voilà comment vous le présentez. À Lecture pour tous, Archives 1967, vous êtes avec Pierre Dumayet.
Gerstein est avant tout un Allemand comme beaucoup d'autres, ce qui peut-être rend son cas d'autant plus étrange. Il est né dans une famille de petite bourgeoisie prussienne, de protestante. Il devient d'ailleurs protestant très engagé pendant sa jeunesse. Ensuite, il est ingénieur. Il entre au parti nazi en 1933. En 1941, il n'est pas dans la Wehrmacht, il est employé comme ingénieur dans une industrie de guerre importante, et c'est alors qu'il apprend que sa belle-sœur a été tuée dans le cadre du programme d'euthanasie, la mise à mort des malades mentaux. Et sur ce, dit-il, il décide d'entrer dans les SS pour les espionner de l'intérieur en quelque sorte, pour voir qui sont les hommes qui donnent ces ordres criminels. Il entre dans les SS, il a une formation de technicien, d'ingénieur, il a eu quelques semestres de médecine, les deux le font affecter au Waffen-SS, au service de désinfection, où il utilise des gaz extrêmement toxiques.
J'ai découvert des choses effroyables. Les Juifs ne sont pas expulsés comme l'on croyait, ils sont exterminés.
Quoi ?
J'arrive juste des camps de Pologne. Ils exterminent les Juifs. Les plus forts sont envoyés au travail forcé. Les autres, les femmes, les enfants, sont gazés. Je l'ai vu de mes propres yeux. L'Église doit alerter les chrétiens.
La première chose que tu dois faire, c'est de quitter la SS.
J'ai vu ce qui ne devait pas être vu. Il faut un témoin. Je serai l'œil de Dieu dans cet enfer.
Le film amène de Costa Gavras. Alors il va continuer à convoyer des gaz vers les camps. Il va continuer à essayer d'avertir. Il sera emprisonné à la Libération. Qu'est-ce qui va d'ailleurs advenir de Kurt Gerstein en 1945?
Il va se suicider en France.
Dans une prison.
À la santé. Cellule, il se prend.
Là, c'est très important. Les sous-titres aussi, vous parlez de l'ambiguïté du bien.
Oui. Parce que Gerstein a vraiment voulu alerter le monde, mais en même temps, il continue à livrer les boîtes de cyclone, donc les boîtes de gaz. Donc, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il a prétendu qu'il avait essayé de détruire quelques livraisons, mais le fait est qu'il reste et qu'il est considéré donc comme criminel de guerre par la justice française. Et c'est pour ça qu'il est enfermé à la santé en 1945.
L'ambiguïté du bien. Vous allez reconnaître la musique de ce film que vous avez vu, dites-vous, dans vos souvenirs, où mène le souvenir au seuil, une demi-douzaine de fois. Il y a là une petite fille qui est prise dans l'exode et elle va être recueillie par une famille. Mais pourquoi cette famille la recueille-t-elle? Parce que elle ne voudrait pas, la famille, que ce soit les voisins qui puissent s'enorgueillir d'une bonne action dans le bien, toujours l'ambiguïté.
De l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
C'est la foule qui applaudit Narciso Yepes. Saul Friedlander, notre témoin de ce vendredi, historien de l'Allemagne, du nazisme, de la Shoah, a vu beaucoup de fois Jeux interdits.
5 fois.
Ouais.
Dans les années donc 50, je crois que c'est de René Clément.
Non oui, 51.
Oui, je l'ai vu 5 fois, ça j'en suis sûr. Et j'ai pleuré à chaque coup. Ce qui vous montre que la résistance, en quelque sorte, à la mémoire dont on a parlé au début de l'émission, et mon refus d'aller à Saint-Jean-Golf sans vraiment me rendre compte de ce que je faisais, est mêlé d'une sorte de douleur cachée, si je peux m'exprimer ainsi, qui se manifeste de manière très indirecte, mais se manifeste quand même. Je pleure chaque fois que je vois les Jeux interdits, que je connais par cœur.
Vous aviez rejoint Israël dès 1948 pour revenir en France, à Genève ensuite, et vous allez enseigner beaucoup dans les années 60 en Israël, et d'abord à l'université hébraïque de Jérusalem. C'est une époque d'euphorie après la guerre de 1967. Où en est l'étude sur la Shoah dont nous, rétrospectivement, nous imaginons qu'elle a toujours mobilisé l'État d'Israël?
Non, justement. Elle est surutilisée maintenant et par des gouvernements de droite. Mais à l'époque, Ben-Gurion et celle de ses disciples, on n'a pas hésité à construire un mémorial avec les moyens de faire des recherches et surtout de collecter des témoignages. Mais le grand public israélien et le gouvernement même c'est pas qu'ils n'étaient pas intéressés, mais ils essayaient d'éviter le sujet parce que quand on se souvient de la Shoah, les Juifs sont dans la Shoah sont les victimes. Or ce qu'espérait le sionisme de l'époque, ce qu'espérait créer ce nouvel État juifs, c'était des juifs héroïques qui combattaient, qui se défendaient. Et alors l'image du juif d'Europe, du juif de la Shoah, est une contre-image qui finalement était non pas occultée, mais mise sous boisseau.
À l'Université hébraïque de Jérusalem, vous tenez un séminaire et vous vous intéressez un moment à la question de la psychologie collective. Le professeur qu'on va entendre ici dans un film allemand qui s'appelle La Vague ne vous ressemble pas précisément. Hein, je tiens à en prévenir nos auditeurs, il se livre à des expériences un peu limites.
Le voilà !
Bonjour.
Bonjour, monsieur Wenger.
Vous me prenez pas très au sérieux, hein. Tout le monde se lève, allez. Et vous faites tous comme moi. Petit exercice d'assouplissement pour détendre les muscles. Bougez bien les jambes. Très bien. Maintenant, tous en rythme. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite.
Et c'est quoi le but ?
Tous ensemble pour l'instant, je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, c'est bien. Vous sentez ? Vous sentez que grâce au rythme, petit à petit, on ne fait plus qu'un ? C'est le pouvoir de la communauté.
On en a encore pour longtemps, là ?
Je veux qu'on soit tous parfaitement en rythme. Tu sais ce que c'est, Mona, t'es danseuse ? Gauche, droite, gauche, allez ! Une, deux ! Vous vous rendez compte qu'en faisant ça, on crée des vibrations qui peuvent détruire un pont ?
Cassie, t'es pas en rythme.
De quoi je me mêle ?
C'est bon, monsieur Wenger, je crois qu'on a bien compris, là.
Non, ça m'étonnerait. D'autant que l'exercice a un deuxième but.
Qu'est-ce que c'est ?
Au-dessus de nous, il y a le cours sur l'anarchie de Finlande. J'en connais un qui va en bouffer de la poussière. Allez, on lui balance de la poussière.
Ils sont devenus fous, qu'est-ce qu'ils font ?
Alors, vous n'êtes pas allé aussi loin que le professeur de La Vague, qui montre à ses étudiants par l'expérience que dès qu'il y a un bouc émissaire, la communauté peut se renforcer. Cependant, vous avez, vous, projeté, c'était interdit, en Israël, devant vos élèves.
Le film de Leni Riefenstahl, Le Triomphe de la Volonté. Vous savez, je donnais un séminaire sur le nazisme à des étudiants de doctorat, donc pas aux undergraduates, si vous voulez. Et je voulais qu'ils comprennent la puissance de la propagande. Sur les esprits à l'époque, bien sûr, de manière plus générale. Alors, j'ai fait venir, c'était pas facile, parce qu'en Israël, le film était totalement interdit. J'ai trouvé trois rouleaux, trois bobines du film dans un kibboutz, et je les ai fait mettre dans la plus grande salle de l'université, parce que j'avais à peu près 400 étudiants. Et alors, c'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Je vous passe le début où personne ne comprenait pourquoi on montrait des enfants, des jeunes qui criaient Heil Hitler, tout ça n'avait pas l'air très sérieux. Et puis Hitler, deuxième séquence, Hitler parle aux dirigeants du parti. Personne ne comprenait l'allemand dans la salle, il n'y avait pas de sous-titres. Et le silence tombe. Les étudiants écoutent sans comprendre du tout, en fait, les mots prononcés, mais l'atmosphère même les réduit au silence. Et alors vient la troisième scène, la dernière dans cette expérience. C'est la grande, grande cérémonie de Nuremberg où le drapeau de sang de 1923, donc du putsch que Hitler avait essayé d'organiser à Munich et échoué, qui avait coûté la vie à 17 de ses acolytes, le drapeau qui avait touché le sang des martyrs est passé de bataillon en bataillon parmi les milliers de SA et SS qui sont assemblés à Nuremberg, au congrès du parti donc. Et Hitler passe de bataillon en bataillon avec le drapeau et touche avec le drapeau de sang les drapeaux des bataillons. Et il regarde droit dans les yeux du porteur de drapeau, ce qui veut dire droit dans la caméra. Et on entend en arrière-plan le Horst Wessel, Ich hatte einen Kameraden, donc les grands chants du parti et de l'armée allemande. Puis ça s'arrête, la bobine s'arrête. Silence dans la salle. j'allais dire, et je pense, une certaine hypnose chez des étudiants israéliens en 1900, début 68.
De la difficulté de faire l'histoire de la Shoah, même, bien sûr, en Israël. Vous insistez d'ailleurs sur une des difficultés dans ces années 60, elle tient à la présence d'une enclave de l'érudition allemande, les derniers de la République intellectuelle de Weimar, qui sont là, en Israël, à Jérusalem, notamment Gershon Scholem, que vous avez beaucoup fréquenté. On en vient comme ça à l'Allemagne, Saulfried Lander. L'Allemagne où vous enseignez de plus en plus, jusqu'à presque un établissement durable, à partir des années 1980. Vous êtes un peu dur pour les Allemands des époques précédentes. Dans les années 50, dans le tambour de Günter Grass, on les voit éplucher des oignons pour s'obliger à pleurer.
Oui, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Günter Grass, et je crois que la métaphore est absolument juste. Le grand silence des années 50, alors ici, en France, on a dit il n'y a jamais eu de silence. Si, il n'y a pas eu de silence, si vous voulez, Schwarzbart a écrit « Le dernier des justes » et Anna Langfuss, « Les bagages de sable », etc., etc. Mais le grand public ne s'intéressait vraiment pas à ce qui s'était passé. Et en Allemagne, alors, c'était le silence. Et personne n'avait jamais rien su de ce qui se passait en Europe de l'Est et ailleurs, en Europe occupée. Et il a fallu des dizaines d'années pour que le grand public allemand accepte l'idée qu'en fait, on savait beaucoup de choses et qu'il fallait surmonter cette espèce de paralysie mentale qui se comprend peut-être.
Mais vous avez rencontré pas mal d'intellectuels allemands, je pense à Martin Walser, qui disait, en contrepoint, « Oui, mais on nous a tapé dessus avec le gourdin du moralisme pour que ça nous entre dans la tête,
oui,
cette culpabilité. »
C'est très récent. Ce que Walser a dit au prix qu'on lui a décerné en 1999, ou quelque chose comme ça, en 2000 peut-être, c'était la réaction de gens qui d'ailleurs, Walser a écrit de belles choses au temps des procès d'Auschwitz, donc dans les années 60. Mais voilà, on en est arrivé au grand âge en ce qui concerne Walser et Augstein et d'autres. Et alors remontent toutes sortes de rancœurs, de ressentiments. Et on ose dire des choses qu'on n'aurait pas osé dire avant. Et je crois que ça explique les propos de Walser au moment du prix. Et nous sommes là dans une toute autre Allemagne, dans une toute autre période, avec des restes d'une génération qui avait été celle des pères et des contemporains.
C'est toujours un thème chez vous, qu'il s'agisse des Juifs, qu'il s'agisse des Allemands, la mémoire profonde qui remonte. On trouve ça sans cesse dans « Où mène le souvenir », votre dernier volume de mémoire, Saulfried Lander. Alors, d'où vient la rancœur d'Ernst Nolte, dernière personnalité que nous allons évoquer aujourd'hui, qui est mort d'ailleurs cet été, et qui ne cessait de dire que le bolchevisme avait été le premier danger qui expliquait toute l'histoire du XXe siècle, et notamment celle de l'hitlérisme.
L'Allemagne a été entraînée dans le chaos des crises et des guerres européennes. La violence des nazis s'est décalquée sur celle des révolutionnaires bolcheviques. L'horreur initiale du siècle revient aux rouges russes, à Lénine et à Staline. Un modèle que les nazis ont imité par peur et combattu par haine.
Cet antisémitisme-là a trouvé une véritable virulence à cause des informations concernant les massacres de population en Russie. C'est-à-dire à cause de l'extermination de l'intelligentsia nationale russe par les révolutionnaires. C'était la clé qui explique non seulement qu'il y a eu une extermination de l'intelligentsia et de la classe bourgeoise en Russie, mais que même en Allemagne, il y avait un parti politique, le parti communiste, qui affichait les mêmes intentions. Mais à partir de l'étude des textes de l'époque, je crois que l'on peut conclure que le mal véritablement mobilisant était pour Hitler et le bolchevisme russe et le communisme allemand.
D'abord le bolchevisme russe et le communisme allemand. Un soir, Nolte vous invite, entre chers collègues, à un dîner, oui, auquel vous vous rendez sans y prêter trop d'inquiétude.
Oui, en 86. Je savais que Nolte avait des opinions un peu extrêmes, et je n'en savais pas du tout la mesure, mais je me disais que bon, un dîner après tout. Et au début, on parle de scandale, de l'immobilier à Berlin, etc. Et puis arrive la soupe, et Nolte se tourne vers moi, et c'est la quintessence, si vous voulez, de toute la conversation qui va se dérouler. Monsieur Friedlander, Herr Friedlander, qu'est-ce que c'est qu'être juif? Est-ce que c'est une affaire de religion, ou bien alors c'est une affaire de biologie? Je voyais déjà pointer le danger, mais enfin bon, je lui ai expliqué que Ben-Gurion avait essayé de trouver la réponse chez une trentaine de savants et avait reçu 30 réponses diverses. Et alors, j'ai dit à Nolte, être juif, bon, bah, finalement, selon la loi en Israël, c'est être né d'une mère juive. Alors il me dit, mais alors c'est biologique. Je lui dis, mais monsieur Nolte, on peut se convertir aussi, et donc on peut devenir juif si on le désire. Ah, il dit, non, là je vois, bon, des équivalences. Et alors commence une conversation absolument odieuse. Je vous passe les détails, mais je me suis levé au moment où il a fait l'équivalent, établi une équivalence totalement fausse, mais dont je n'avais pas les détails sur le coup, entre un journaliste pacifiste de gauche juif, Kurt Tucholsky, qui avait dit dans un article de journal, publié d'ailleurs quand il était à Copenhague, disant aux Allemands, si vous voulez la guerre, eh ben vous l'aurez, vous périrez par le gaz.
Comme on était soldats. À la fin des années 20. Là, oui.
Alors on est en 28 et commence le débat au Reichstag sur la construction d'un croiseur pour la marine allemande. Alors c'est ça qui met le feu au putsch chez Tucholsky, et c'est pour ça qu'il dit ça. Alors je dis à Nolte, en fait vous faites l'équivalent entre le pacifiste juif Tucholsky et ce que Hitler a écrit dans Mein Kampf, si quelques dizaines de milliers de ces Hébreux étaient morts par les gaz, la guerre aurait tourné différemment. Il me dit, eh ben oui, c'est ça. Alors je lui ai demandé de m'appeler un taxi.
On comprend que vous trembliez comme une feuille après cette agression.
Oui.
Vous n'avez pas dormi de la nuit. Juste une dernière question. Enfin, vous la prenez pas mal. Parfois, n'êtes-vous pas trop sensible quand vous êtes en Allemagne? Vous êtes chez d'autres excellents collègues.
Oui, absolument.
Ils vous servent un vin pour vous honorer. Et vous ne retenez qu'une chose, c'est que le vin date de 1943.
Ben oui, mais enfin bon. Et j'ai beaucoup regretté par la suite de l'avoir mentionné. Et ce qui vous montre que dans ce genre de... Bon, vous l'avez dit, d'hypersensibilité à un moment donné, sans qu'on s'en rende compte, on réagit de manière imprévisible, imprévue et imprévisible, et on fait des gaffes.
Maintenant, vous avez des petits-fils à Berlin. Je ne veux pas finir sur une conclusion irénique, parce que vous n'êtes pas du genre irénique. Vous avez des petits-fils à Berlin, vous allez les voir. Vous avez des petits-fils à Tel Aviv. Vous avez des petits-fils
à Paris.
À Paris. Et vous habitez Los Angeles, ce qui n'est pas du tout logique, mais vous avez toujours été un errant perpétuel, Saül Friedlander, qui avait toujours le sentiment qu'il ne fallait pas être propriétaire. Où mène le souvenir, le dernier volume de vos mémoires, c'est au seuil, et puis les réflexions sur le nazisme avec Stéphane Bou, c'est au seuil également. L'émission était préparée par Frédéric Martin, réalisée par Stéphane Ronxin, avec à la technique Alice Berger.